Chapitre 2. Dans une matinée du mois d'octobre 1838, un homme descendait à pied d'un village du comté de Niebla et se dirigeait vers la plage. Il était si impatient d'arriver à un petit port de mer qu'on lui avait indiqué que, croyant abréger son chemin, il entra dans une de ces vastes prairies, nombreuses dans le nord de l'Espagne, véritable désert consacré à l'élevage du bétail dont les bandes ne sortent jamais de ces pâturages. Cet homme paraissait vieux, bien qu'il n'eût pas plus de 26 ans. Il portait une sorte de capote militaire boutonnée jusqu'en haut et une mauvaise coiffure à visière. Sur son épaule était un gros bâton auquel était suspendue une petite caisse d'acajou enveloppée de serge verte, un paquet de livres attachés avec des bandes de lisière, un mouchoir renfermant quelques linges et un grand manteau roulé. Le poids de ce maigre bagage paraissait au-dessus de ses forces. De temps en temps, il s'arrêtait, appuyait une main sur sa poitrine oppressée ou sur son front brûlant, ou bien jetait les yeux sur un pauvre chien qui le suivait et qui, dans ses moments d'arrêt, se couchait haletant à ses pieds. « Pauvre fidèle, lui disait-il, tu es le seul être qui me prouve qu'il y a encore dans le monde de la reconnaissance et de l'attachement. Je n'oublierai jamais le jour où je t'ai vu pour la première fois. C'était avec un pauvre berger qui mourut fusillé pour avoir refusé de trahir. Il était à genoux au moment de recevoir la mort et faisait de vains efforts pour t'éloigner de lui. Il demanda qu'on te mît à l'écart, mais personne n'osa le faire. La décharge retentit, et toi, fidèle ami de l'infortuné, tu tombas gravement blessé auprès du corps inanimé de ton maître. Je te recueillis, je guéris tes blessures, et depuis ce moment, tu ne m'as plus quitté. Quand les plaisants du régiment se moquaient de moi et m'appelaient guérisseur de chiens, tu venais lécher la main qui t'avait sauvé, comme pour me dire « Les chiens sont reconnaissants ». Oh mon Dieu, j'aimais cependant mes semblables. Quand j'arrivais dans ce pays, il y a 2 ans, j'étais plein de vie, d'espérance et de bonne volonté, et je venais offrir mes veilles, mes soins, mon savoir et mon cœur. J'ai guéri de nombreuses blessures, et pour récompense, j'en ai reçu moi-même de bien profondes au fond de l'âme. Grand Dieu, je me sens le cœur brisé. Je me vois ignominieusement chassé de l'armée après 2 ans de service, après 2 ans de travail sans relâche. Je me sens accusé et persécuté pour le seul motif que j'ai soigné un homme du parti ennemi, un malheureux qui, poursuivi comme une bête fauve, vint tomber mourant dans mes bras. Est-il possible que les lois de la guerre changent en crime ce que la morale érige en vertu et la religion en devoir? Et que me reste-t-il à faire maintenant? J'irai reposer ma tête devenue chauve et mon cœur ulcéré sous l'ombrage des tilleuls de la maison paternelle. Là, on ne me reprochera pas comme un crime d'avoir eu pitié d'un mourant. » Après un repos de quelques instants, le malheureux fit un effort. « Allons, fidèle, en avant !» Et le voyageur et le fidèle animal reprirent leur pénible course, mais ils perdirent bientôt le sentier tracé par le passage des bergers qu'ils avaient suivi jusque-là. Le sol se couvrait de plus en plus de broussailles, de bruyères hautes et touffues. Il était devenu impossible de suivre la ligne directe et d'avancer sans incliner tantôt à droite, tantôt à gauche. Le soleil était vers son déclin et on ne découvrait à l'horizon aucun indice d'habitation humaine. On n'apercevait que la prairie sans fin, un désert de verdure, uniforme comme l'océan. Frédéric Stein, que nos lecteurs ont sans doute déjà reconnu, s'aperçut trop tard que dans son impatience, il avait compté sur plus de force qu'il n'en avait réellement. À peine pouvait-il se soutenir sur ses pieds gonflés et endoloris, ses artères battaient sans violence, une douleur aiguë lui fendait les tempes, une soif ardente le dévorait. Et pour augmenter l'horreur de sa situation, des mugissements sourds et prolongés lui annonçaient le voisinage de quelques troupes de ces taureaux à demi sauvages, si redoutables en Espagne. « Dieu m'a sauvé de nombreux dangers, dit le malheureux voyageur. Il me protégera encore maintenant, sinon que sa volonté soit faite. » Puis il hâta le pas autant que cela lui fut possible. Mais quelle ne fut pas sa terreur quand, au détour d'un épais massif de lentisque, il se trouva en face d'un taureau, éloigné de quelques pas seulement. Stein resta sans mouvement et comme pétrifié. L'animal, surpris de cette rencontre et de tant d'audace, resta lui-même immobile, fixant sur Stein ses yeux féroces, ardents comme deux brasiers. Le voyageur comprit que s'il faisait le moindre mouvement, il était perdu. Le taureau, qui, ayant la connaissance instinctive de sa force et de sa valeur, veut être provoqué pour attaquer lui-même, baissa et releva deux fois la tête avec impatience, gratta la terre du pied et souleva un nuage de poussière comme pour défier son adversaire. Puis, faisant un pas en arrière, il baissa la tête et se préparait à l'attaque quand il se sentit mordre au jarret. En même temps, les furieux aboiements de son fidèle compagnon firent connaître à Stein quel était son libérateur. Le taureau irrité se retourna pour repousser cette attaque inattendue, et Stein profita de ce mouvement pour fuir. L'horrible situation à laquelle il venait d'échapper lui rendit des forces pour s'éloigner à toutes jambes entre les lentisques et les aloès dont l'épaisseur le mit à l'abri de son formidable ennemi. Il avait déjà traversé une gorge de peu de largeur et gravi un coteau lorsqu'il s'arrêta, ayant presque perdu la respiration, pour regarder le théâtre de sa dangereuse aventure. Alors il aperçut à travers les arbustes son pauvre compagnon que le féroce taureau lança plusieurs fois en l'air. Stein étendit les bras vers le généreux animal et répéta en sanglotant « Pauvre fidèle, mon seul ami, que tu mérites bien ton nom, que tu paies cher ton attachement à tes maîtres !» Pour s'arracher à ce cruel spectacle, Stein pressa le pas, non sans répandre des larmes abondantes. C'est ainsi qu'il arriva au sommet d'une autre colline, d'où un magnifique paysage se déroula à sa vue. Le terrain descendait par une pente imperceptible vers la mer qui, calme et tranquille, reflétait les rayons du soleil couchant et semblait un vaste champ semé de diamants, de rubis et de saphirs. Du milieu de ces splendeurs se détachait comme une perle la blanche voilure d'un vaisseau qui semblait immobile sur les vagues. La ligne accidentée qui dessinait la côte présentait ici une plage de sable doré que les vagues en expirant éclaboussaient d'une écume argentée. Là, des roches capricieuses et altières qui paraissaient se complaire à affronter le terrible élément, aux assauts duquel elles résistent comme la fermeté résiste à la fureur. Au loin et au-dessus d'un des rochers qui était à sa gauche, Stein aperçut les ruines d'une forteresse, œuvre de l'homme qui ne résiste à rien, fondée sur les rochers, œuvre de Dieu qui résiste à tout. Quelques groupes de pins élevaient leurs sombres panaches au-dessus des broussailles. À droite, sur une colline, il découvrit un vaste édifice, sans pouvoir reconnaître si c'était un village, un palais avec ses dépendances ou un couvent. Presque épuisé par sa dernière course et par l'émotion qu'il venait d'éprouver, ce fut de ce côté qu'il se dirigea. Il faisait déjà nuit quand il y arriva. L'édifice était un couvent comme ceux que l'on construisait dans les siècles passés quand régnaient la foi et l'enthousiasme, vertus si grandes, si belles, si élevées, et qui, par là même, n'ont plus de crédit dans notre siècle à idées étroites et mesquines. Car alors, on ne songeait pas à amasser de l'or ou à en tirer des profits coupables, mais on l'employait à de dignes et nobles usages, parce que les hommes pensaient à ce qui est grand et beau, avant de s'occuper de ce qui était commode et profitable. C'était un couvent qui, jadis somptueux, riche et hospitalier, donnait du pain aux indigents, soulageait les misères et guérissait les maux de l'âme et du corps. Mais qui, maintenant abandonné, vide, pauvre, démantelé, avait été mis en vente pour quelques morceaux de papier, sans que personne eût voulu l'acheter, même à si bas prix. Bien que la spéculation ait pris des proportions gigantesques et menace d'envahir tout, comme un conquérant auquel rien ne peut faire obstacle, elle s'arrête d'ordinaire devant les temples du Seigneur, comme le sable que soulève le vent du désert s'arrête au pied des pyramides. Le clocher, privé de son ornement légitime, s'élevait comme un géant sans vie, dont les orbites vides auraient perdu la lumière de la vie. En face de l'entrée, on voyait une croix de marbre blanc, à qui son piédestal, à moitié détruit, faisait prendre une position penchée, comme si elle était inclinée sous le poids de l'abattement et de la douleur. La porte, jadis ouverte pour tous à deux battants, était maintenant fermée. Les forces de Stein l'abandonnèrent et il tomba à moitié inanimé sur un banc de pierre placé contre la muraille près de la porte. Le délire de la fièvre envahit son cerveau. Il lui semblait que les vagues de la mer l'enveloppaient comme d'énormes serpents qui, se retirant soudain, le laissaient couvert d'une bave blanchâtre et empoisonnée. La lune paraissait le regarder avec un visage pâle et étonné. Les étoiles tournaient autour de lui en lui jetant des regards moqueurs. Il entendait des mugissements de taureaux et un de ces sauvages animaux, sortant de derrière la croix, jetait aux pieds du malheureux tourmenté de la fièvre son pauvre chien privé de vie. La croix elle-même semblait s'approcher de lui en vacillant, comme si elle était prête à tomber et à l'écraser sous son poids. Tout s'agitait et tournait autour de l'infortuné. Mais bientôt, au milieu du chaos dans lequel ses idées allaient s'embrouillant de plus en plus, il n'entendit plus seulement des rumeurs sourdes et vagues comme le bruit de tambours éloignés et produites par le battement de ses artères, mais un son clair et distinct qui ne pouvait se confondre avec aucun autre, le chant d'un coq. Comme si ce bruit champêtre et domestique lui eût rendu immédiatement la faculté de penser et de s'émouvoir, Stein se leva, se mit en marche avec beaucoup de peine vers la porte et la frappa avec une pierre. L'aboiement d'un chien lui répondit. Il fit un second effort pour répéter son appel et tomba évanoui sur le sol. La porte s'ouvrit et deux personnes apparurent sur le seuil. L'une, jeune et portant une lampe dans la main, dirigea la lumière vers l'objet qu'elle aperçut à ses pieds et s'écria « Jésus-Marie, ce n'est pas Manuel, c'est un inconnu et il est déjà mort, que Dieu nous vienne en aide !»« Secourons-le, » dit l'autre qui était une femme âgée, vêtue avec une grande propreté. « Frère Gabriel, frère Gabriel » cria-t-elle en entrant dans la cour, « venez vite, voilà un malheureux qui se meurt !» On entendit des pas précipités, bien que pesants. C'étaient ceux d'un vieillard, d'une taille peu élevée, dont le visage calme et candide annonçait une âme pure et simple. Son vêtement bizarre consistait en un pantalon et une ample veste de laine brune, à manches, qui semblait avoir été faite avec un costume de moine. Il était chaussé de sandales et sa tête chauve et luisante était couverte d'un bonnet de laine noire. Frère Gabriel, dit la vieille, il faut secourir cet homme. Il faut secourir cet homme, répondit le frère Gabriel. Au nom de Dieu, s'écria la femme à la lampe, où allez-vous mettre ce moribond? Ma fille, dit la vieille, s'il n'y a pas d'autre place pour lui, je le mettrai dans mon propre lit. Et vous allez le recevoir dans la maison sans savoir seulement qui il est? « Qu'importe, dit la vieille, ne connais-tu pas le proverbe ? Fais le bien et ne regarde pas à qui tu le fais. Allons, aide-moi et mettons la main à la besogne. » Dolorès obéit avec un empressement mêlé de crainte. « Quand Manuel arrivera, dit-elle, Dieu veuille que nous n'ayons pas quelque désagrément. » « Je voudrais bien voir cela, dit la bonne vieille, il ne manquerait plus que de voir un fils qui trouverait à redire à ce qui convient à sa mère. » À eux trois, ils portèrent Stein à la chambre du frère Gabriel. Avec de la paille fraîche et une épaisse peau de mouton, on arrangea de suite un bon lit. La tante Marie, on appelait ainsi la vieille, prit dans l'armoire une couverture de laine et une paire de draps un peu gros, mais bien blancs. Le frère Gabriel voulait céder son oreiller, mais la tante Marie s'y opposa en disant qu'elle en avait deux et qu'un seul lui suffirait pour dormir. Stein fut bientôt déshabillé et mis au lit. On entendit alors à la porte des coups répétés. « Voilà Manuel, dit alors sa femme, venez avec moi, ma mère, car je ne me soucie pas d'être seule avec lui quand il apprendra que nous avons admis un homme dans la maison sans qu'il fût prévenu. » La belle-mère suivit sa bru. « Dieu soit loué, bonsoir ma mère, bonsoir ma femme. » dit en entrant un homme de haute taille et de bonne mine qui paraissait avoir 38 ou 40 ans et que suivait un jeune garçon qui en annonçait environ 13. « Allons, Momo » ajouta-t-il, « décharge la bourrique et conduis-la à son écurie. La pauvre hirondelle n'en peut plus. » Momo porta dans la cuisine, centre de réunion de la famille, une certaine quantité de grand pain blanc, quelques autres provisions et le manteau de son père. Il disparut ensuite, emmenant l'hirondelle par la bride. Dolorès alla fermer la porte et rejoignit dans la cuisine sa mère et son mari. « M'as-tu apporté, dit-elle, le savon et l'amidon ?»« Les voici. »« Et mon lin ?» demanda la mère. « J'ai eu envie de ne pas l'apporter, dit Manuel en souriant et en remettant quelques écheveaux à sa mère. « Et pourquoi, mon cher fils ?» Je me rappelais l'histoire de celui qui partait pour la foire et à qui tous ses voisins donnaient des commissions. « Apporte-moi un chapeau, apporte-moi une paire de guêtres, une cousine voulait un peigne, une tante du chocolat, et pour tout ça, personne ne lui donnait un quarto. » Lorsqu'il était déjà monté sur sa mule, un petit enfant accourut et lui dit « Voici deux martes pour un sifflet, voulez-vous bien m'en rapporter un ?» Et en parlant ainsi, il lui mit l'argent dans la main. L'homme s'inclina, prit l'argent et lui répondit « Tu siffleras. » En effet, il revint de la foire et de toutes les commissions, il ne rapporta que le sifflet. « Voilà qui est aimable, répondit la mère. Et pour qui est-ce donc que je passe les jours et les nuits à filer? N'est-ce pas pour toi et tes enfants? Veux-tu que je sois comme le tailleur de Campillo qui cousait pour rien et fournissait encore le fil ?» En ce moment, Momo se présenta à la porte de la cuisine. Il était petit et gros. Ses épaules étaient hautes et il avait de plus la mauvaise habitude de les élever encore davantage par un geste méprisant qui semblait dire « Qu'est-ce que cela me fait ?» Alors elles arrivaient à toucher ses énormes oreilles, larges comme deux éventails. Il avait une grosse tête, les cheveux courts et les lèvres épaisses. De plus, il avait le nez camard et louchait horriblement. « Père, dit-il d'un air méchant, il y a un homme couché dans la chambre de frère Gabriel. » « Un homme dans ma maison ? » dit Manuel en bondissant de son siège. « Dolorès, qu'est-ce que cela veut dire ?»« Manuel, c'est un pauvre malade. Ta mère a voulu lui donner l'hospitalité. J'ai tâché de m'y opposer, mais elle l'a voulu absolument. Que pouvais-je faire ?»« C'est bien, mais quelle soit ma mère, ce n'est pas une raison pour recevoir dans la maison le premier qui se présente. » »« Non, il fallait le laisser mourir à la porte comme un chien. Est-ce là ce que tu veux dire ?» « Mais ma mère, est-ce que ma maison est un hôpital ?»« Non, mais c'est la maison d'un chrétien, et si tu avais été ici, tu aurais agi comme moi. »« Non, certainement, répondit Manuel, je l'aurais mis sur la bourrique et je l'aurais porté au village, puisqu'il n'y a plus de couvent. »« Nous n'avions ici ni bourrique, ni personne qui pût se charger de ce malheureux. »« Et si c'est un voleur ?»« Un moribond ne vole pas. » Et s'il a une longue maladie, qui en paiera les frais ?
On a déjà tué une poule pour faire du bouillon, dit Momo. J'en ai vu les plumes dans la basse-cour.
Ma mère, avez-vous perdu l'esprit ? S'écria Manuel exaspéré. Assez, assez, dit la mère d'une voix sévère et pleine de dignité. Tu devrais courber la tête de honte de t'être emporté contre ta mère parce qu'elle a fait ce que commande la loi de Dieu. Si ton père vivait encore, il ne pourrait croire que son fils veuille fermer la porte à un malheureux qui y arrive mourant et sans refuge. Manuel baissa la tête en effet et il y eut un moment de silence général. « Allons, ma mère, dit-il enfin, supposons que je n'ai rien dit. Agissez à votre guise. On sait bien que les femmes ont toujours le dernier mot. » Dolorès respira plus librement.
« Qu'il est bon !»
dit-elle toute joyeuse à sa belle-mère. « Est-ce que tu en doutais ?» répondit celle-ci en souriant à sa belle-fille qu'elle aimait beaucoup et en se levant pour aller reprendre son poste au chevet du malade. « Moi qui l'ai mise au monde, je n'en ai jamais douté. » Et passant près de Momo, son aïeul lui dit « Je savais déjà que tu avais un mauvais cœur, mais je ne l'avais pas encore vu aussi clairement que tout à l'heure. Que Dieu te préserve, tu me fais pitié. » Tu es méchant et celui qui est méchant porte son châtiment en lui-même.
Les vieilles ne sont bonnes qu'à faire des sermons, murmura Momo en jetant à sa grand-mère un regard de travers. Mais il avait à peine prononcé la dernière de ses paroles que sa mère, qui l'avait entendue, s'élança sur lui et lui donna un soufflet. « Cela t'apprendra, lui dit-elle, à être insolent avec la mère de ton père, qui est deux fois ta mère. » Momo s'enfuit en pleurant dans la cour et soulagea sa colère en battant le chien.